les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Madame, Monsieur, bonsoir. Le Monde et l'Afrique noire ont ce soir un nouveau secrétaire général de l'ONU. Le Ghanéen de 58 ans, Kofi Annan, a prêté serment à New York en promettant solennellement d'exercer en toute loyauté ses fonctions et de remplir ses responsabilités avec seulement l'intérêt de l'ONU en tête. Parmi les urgences du successeur de Boutros-Boutros-Ghali, l'argent et le déploiement rapide.
Ce 1er janvier 1997, pour la première fois, un subsaharien est le visage de la diplomatie mondiale. Un Ghanéen dans la prestigieuse tour de verre de Manhattan. Quel parcours! Surtout que Kofi Annan, qui arrive à la tête de l'ONU, ne cache pas son projet de rénover les Nations Unies. Il veut s'attaquer à ce vieux serpent de mer dont on parle tant et que personne ne veut affronter. En aura-t-il les moyens? Surtout en cette période troublée à laquelle il arrive.
Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 24 mars. Les frappes aériennes de l'OTAN sur des cibles serbes sont en cours depuis quelques minutes. C'est une agence italienne qui vient d'annoncer. C'est donc désormais un engagement militaire des forces alliées, malgré d'ultimes déclarations et tentatives diplomatiques.
Je n'ai jamais rien vu de pire depuis le Biafra. Constat horrifié de Bernard Kouchner qui revient d'une visite en Somalie où il a convoyé un bateau chargé de vivres. Selon le ministre, 2 millions d'enfants somaliens risquent de mourir de faim dans les toutes prochaines semaines.
Au Zaïre, les rebelles ont investi la troisième ville du pays, Kisangani, menaçant ainsi directement 90 000 réfugiés. Leur chef, Laurent Désiré Kabila, fort de son succès, n'entend plus parler de cesser le feu. Son prochain objectif, il l'a dit, est la prise de la capitale, Kinshasa, et le départ du président Mobutu.
Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image.
Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais en titre, l'actualité de ce jour se concentre autour de cette question. La paix est-elle possible? Kofi Annan va-t-il réussir à faire jouer les voix de la diplomatie? Ce matin à Bagdad, après un entretien de près de 3 heures avec Saddam Hussein, le porte-parole de l'ONU faisait entendre qu'un accord serait sur le point d'aboutir.
C'est à tous ces fronts que le nouveau chef de la diplomatie mondiale doit faire face. En a-t-il les moyens? Kofi Atta Annan naît le 8 avril 1938 à Kumasi, dans ce que l'on appelle encore à l'époque la Côte de l'Or. Il est le fils d'un cadre d'une filiale du groupe anglo-hollandais Unilever. Il fait donc partie de l'aristocratie intellectuelle de son pays.
Dans le palais où se tient la conférence de San Francisco, M. Stettinius reçoit les représentants des Nations Unies, parmi lesquels on reconnaît M. Molotov, chef de la délégation soviétique, et M. Eden, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne. Et voici l'usine aux nouvelles d'où partiront à travers le monde les télégrammes et les messages. M. Stettinius va ouvrir les débats, et il le fait en frappant sur la tribune les 3 coups rituels du lever de rideau.
Conference of the United Nations on International Organization is now convened.
Ladies and gentlemen. Puis il passe la parole au président Truman, qui de Washington s'adresse par radio aux membres de la conférence. Le monde, dit le président des États-Unis, sent renaître sa foi dans la force morale du principe de justice. Les membres de cette conférence sont appelés à être les architectes d'un monde meilleur. Si nous ne voulons pas mourir ensemble par la guerre, nous devons apprendre à vivre ensemble dans la paix.
We must learn to live together in peace.
Kofi Annan a 7 ans lorsque ce 24 octobre 1945 à San Francisco, les grandes puissances issues de la guerre donnent naissance à l'Organisation des Nations Unies. Le jeune garçon entre à l'école à Kumasi, sa ville natale. Il va y poursuivre ses études jusqu'à l'université. Le timide jeune homme est un brillant élève que ses professeurs apprécient parce qu'il se singularise par son désir de découvrir. Kofi Annan.
On était 40 garçons dans les salles. Des garçons, qu'est-ce que vous voyez? Tout le monde a dit un point noir. Il recule et nous demande, donc personne n'a vu cette feuille blanche.
Ah.
Un mètre carré. Il dit, il faut pas traverser le monde. Focalisons sur les points noirs.
Il faut contourner les problèmes.
Il faut continuer les problèmes. Et puis, il y a beaucoup de goodness, comme on dit, dans le monde aussi.
La naissance du 93e État indépendant du monde a été célébrée au milieu d'une liesse extraordinaire où des traditions d'origine purement africaine se mêlaient à d'autres qui l'étaient moins, comme l'élection de cette Miss. C'est ainsi que l'ancienne Côte de l'Or britannique est devenue le Ghana. La duchesse de Kent était venue assister au nom de la reine d'Angleterre qui ajoute à ses titres désormais celui de reine de Ghana à la transformation de cette ancienne colonie en dominion de l'Empire britannique. Nouvel État indépendant, le Ghana prend place aujourd'hui en Afrique noire au même rang que le Togo et le Cameroun, récemment élevés à l'indépendance par la France.
Le jeune Kofi Atta Annan va vivre avec la même ferveur cette indépendance de la Côte de l'Or, Gold Coast, qui devient Ghana. Une première en Afrique. Il entre dans la jeune administration ghanéenne comme directeur du tourisme, mais pour une très courte période. Quelque temps après, il quitte son pays pour les États-Unis d'Amérique. Il va poursuivre ses études. Il entre au McAllister College de Saint-Paul. En 1961, grâce à une bourse de la Fondation Ford qui finance une partie de sa scolarité, il y achève son baccalauréat universitaire, l'équivalent du niveau licence d'économie en France. Il entre ensuite à l'Institut des hautes études internationales de l'Université de Genève, en Suisse, où il obtient son diplôme d'études approfondies. C'est dans ce pays qu'il va apprendre à parler français. Une fois son diplôme obtenu, Kofi Annan entre dès 1962 au sein des Nations Unies. Il est fonctionnaire de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est le début d'une ascension méthodique au sein de l'organisation. En 1965, il épouse Titi Alakija, issue d'une famille nigériane fortunée. Ils auront un fils, Kojo, et une fille, Ama. Mais ils se séparent à la fin des années 1970, moment où le jeune fonctionnaire décide de retourner à l'école pour parfaire ses connaissances en économie. Il entre dans la prestigieuse MIT, le Massachusetts Institute of Technology, situé à Cambridge, à proximité de la ville de Boston. L'institut est aujourd'hui célèbre dans le monde entier pour la qualité de ses recherches et de son enseignement, notamment dans le domaine des sciences et des technologies. Il compte parmi ses anciens élèves et professeurs des personnalités importantes comme Kofi Annan lui-même, comme Paul Krugman ou encore le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. En 1972, Kofi Annan obtient son diplôme de maîtrise en sciences de gestion au MIT. C'est le début d'une irrésistible et discrète ascension au sein des Nations Unies. Il va tour à tour être en poste à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, à Addis Ababa, puis à la Force d'urgence des Nations Unies, la FUNU 2, à Ismaïla, au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à Genève, puis au siège des Nations Unies à New York, comme sous-secrétaire général à la gestion des ressources humaines et coordonnateur des Nations Unies pour les questions de sécurité, puis comme sous-secrétaire général à la planification des programmes, au budget et à la comptabilité, et contrôleur. Kofi Annan, qui a épousé la juriste suédoise Nan Lagergren en 1985, va être confronté à l'une des missions les plus complexes de sa carrière en cette année 1990.
Mais tout d'abord, les premières images de Kuwait City au moment de l'invasion irakienne. Jusqu'à présent, vous le savez, c'était un conflit à huis clos. Rien n'avait filtré sur les télévisions de l'opération militaire irakienne. Eh bien, voici ces premières images. Bruno Le Dreyf.
Il y a 6 heures que l'armée irakienne a déferlé sur le Koweït. La guerre est terminée, ou presque. 170 000 soldats appuyés par une division blindée ont rapidement bousculé la petite armée koweïtienne. Elle comptait à peine 20 000 hommes. Pourtant, 6 heures après, quelques poches de résistance s'opposent toujours aux roulons compresseurs irakiens. Si les hélicoptères de Saddam Hussein peuvent survoler la ville sans crainte, ces blindés légers de fabrication soviétique poursuivent leur travail de nettoyage. L'armée irakienne tient Kuwait City, mais elle a dû se battre. À preuve, cet hélicoptère. Sur le fuselage, le drapeau irakien. Quelques heures plus tard, un seul bâtiment stratégique échappe toujours à l'emprise syrienne, la radio. Sur ce document exclusif, on entend le speaker koweïtien, il lance des appels à la résistance. Ne posez pas les armes, dit-il. Chassez les envahisseurs comme on chasse un chien. Défendez-vous. Et il ajoute, on vole nos voitures pour les emmener en Irak. Désormais, les rues restent désertes, la radio à son tour va se taire. Bientôt, le Koweït indépendant n'existera plus.
Août 1990, 2 heures du matin, les divisions de la garde républicaine irakienne et les forces spéciales de l'armée pénètrent sur le sol koweïtien, à la grande surprise des forces qui avaient réduit leur niveau d'alerte. Les commandos irakiens, déployés par hélicoptère ainsi que par bateau, attaquent la capitale Kuwait City, tandis que les autres divisions sécurisent les aéroports et les bases aériennes soutenues par des hélicoptères de combat. Après plusieurs heures de bataille, le Kuwait tombe dans les mains de l'armée irakienne qui parvient à prendre la résidence de l'émir Jaber al-Hamad al-Sabah, le palais d'Asman, protégé par la garde nationale et la police locale. L'émir est néanmoins parvenu à s'enfuir dans le désert saoudien dès le début de l'invasion. Son demi-frère, le cheikh Fahad al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, est tué par les forces irakiennes. Les dernières poches de résistance tomberont le 4 août. Saddam Hussein installe aussitôt un gouvernement fantoche baptisé le gouvernement provisoire du Koweït libre. Le Koweït devient ainsi de facto la 19e province de l'Irak et est annexé le 28 août tel que l'avait préconisé Saddam Hussein. Le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte 12 résolutions exigeant le retrait immédiat des forces irakiennes du Koweït. Mais en vain, l'occupation est unanimement condamnée par toutes les grandes puissances mondiales. Même les pays traditionnellement considérés comme des proches alliés de l'Irak, comme la France et l'Inde, appellent à un retrait immédiat de toutes les forces irakiennes du Koweït. Saddam Hussein ne recule pas. Kofi Annan reçoit alors du secrétaire général de l'ONU, le péruvien Javier Pérez de Cuellar, la mission spéciale d'organiser le rapatriement de l'Irak, des 900 fonctionnaires internationaux et ressortissants des pays occidentaux. Amadou Ould Abdallah, ancien ministre des Affaires étrangères de Mauritanie, diplomate. Il a travaillé pendant une longue période pour les Nations Unies. Il est un ami, un proche de Kofi Annan.
Kofi Annan a commencé sa carrière tout jeune par une expérience qui l'a aidé au Koweït. C'est en 1958, autour du canal de Suez, après la première guerre, les événements de 56-58 entre Israéliens et Égyptiens. Donc il a une expérience sur le terrain qui l'a beaucoup marqué. C'était son premier voyage en dehors du Ghana et de l'Amérique.
C'était quoi son rôle?
Son rôle, il était donc un fonctionnaire dans les finances, mais il suivait cette question donc de gestion du personnel des Nations Unies. C'était la première fois qu'on déployait les casques bleus et il était sur le terrain et il m'a souvent dit que cela a beaucoup marqué et lui et des amis de sa génération. Donc, plusieurs décennies après, au Koweït, donc après la première guerre du Golfe, il a été dans ses fonctions. Il était à l'époque dans le département de maintien de la paix. Il faut dire qu'il venait aussi de la gestion du personnel des Nations Unies. Mm-hmm. Et qu'entre-temps, Kofi Annan a été à Genève. C'est ça qui lui a permis de parler le français, à l'OMS. Et c'était pendant les grands désordres dans l'ancienne Indochine. Donc il a servi au Cambodge. Alors, après ses expériences, son arrivée au Koweït a été la consécration de la qualité de son expérience. Et c'était une situation extrêmement difficile, avec tous les étrangers stranded, éparpillés ou perdus. Les Koweïtis, les Irakiens, les nomades arabes qui n'avaient pas de nationalité. Il l'a géré comme toujours avec efficacité et surtout modestie.
Après une série de négociations infructueuses entre les grandes puissances mondiales et l'Irak, les États-Unis déclarent la guerre à la mi-janvier 1991. Le 16 janvier, les avions de la coalition ciblent plusieurs sites militaires irakiens. La bataille va être de très courte durée.
À 50 km au nord de Safania, Khafji, ville frontière, ville déserte. Il a suffi d'un seul obus irakien pour que l'armée saoudienne s'enfuie à toutes jambes. Khafji, ville ouverte, ville piège, les Américains campent juste derrière. Le 29 janvier, l'armée irakienne est entrée dans Khafji. Réplique immédiate, les troupes des pays arabes appuyées par l'artillerie américaine s'offrent une victoire facile. On a laissé les Irakiens tomber dans un cul-de-sac. En trois jours, tout est réglé. À Khafji, on aura compris si besoin était que la soi-disant 4e armée du monde est une armée de gueux qui préférera se rendre plutôt que de mourir pour Saddam.
Il y a des Irakiens qui sont obligés de faire la guerre. Dès le moment qu'on arrive, il dit, ça y est, ils ont abandonné. Il abandonne tout de suite. Quand il voit les chars, il vient sur eux, il abandonne.
Il se rendait quand vous arriviez? Trois semaines plus tard, la guerre terrestre, la vraie, les alliés l'emporteront presque sans se battre. Le test de Khafji s'est avéré fiable.
Le 1er janvier prochain, c'est l'Égyptien Boutros Ghali qui succédera au Péruvien Pérez de Cuellar au poste de secrétaire général des Nations Unies. Excellent diplomate, parlant aussi bien le français que l'anglais, chrétien pratiquant marié à une juive égyptienne, Boutros Ghali apparaît comme l'homme de la situation à un moment où l'ONU retrouve son second souffle. En tout cas, il y en a un qui est content, c'est le ministre français des Affaires étrangères, Roland Dumas, aujourd'hui en visite au Cambodge et qui réagit au micro de Ralph Pinto.
En désignant M. Boutros Ghali comme secrétaire général, le Conseil de sécurité choisit un homme de grande expérience et qui dispose de grandes qualités personnelles.
Lorsque l'Égyptien Boutros Ghali arrive le 1er janvier 1992 à la tête de l'ONU, Kofi Annan est déjà un responsable de la maison influent et très apprécié. Il jouit d'un réel respect au sein de l'organisation. Il va être récompensé de son succès dans sa mission en Irak par une nomination au poste de secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix. Fonction stratégique et délicate au sein de cette structure où l'on doit maintenir la paix sans armée à soi.
Sachez que les forces armées rwandaises, les forces armées du pays, vous allez nous les mettre sur le dos alors que cela n'était pas nécessaire. Et du coup, les forces armées du pays vont se fâcher et ça va faire boum. Tout ça, c'est des histoires de Tutsis. Ce sont eux qui nous causent tous ces tournis.
The genocide in Rwanda should never, ever have happened.
Le génocide du Rwanda n'aurait jamais, jamais dû arriver. Mais cela s'est produit. La communauté internationale a laissé tomber le Rwanda. Et cela doit pour toujours nous laisser un sentiment de regret amer et de tristesse éternelle.
Ce drame, ce génocide, qui va faire près d'un million de victimes, va considérablement bouleverser le Rwanda. Mais également la planète entière, qui se demande comment une telle tragédie a pu se produire. Que faisaient les Nations Unies qui pourtant étaient sur place et avaient conscience de la menace? La Maison de Verre est dans le viseur et Kofi Annan en première ligne, puisqu'il était le secrétaire général adjoint en charge du maintien de la paix. Il doit s'expliquer sur cette terrible tragédie, comme nous allons l'écouter dans la seconde partie de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Kofi Annan. A-t-il manqué à ses obligations? Rendez-vous dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. Restez à l'écoute.
Archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
C'est très difficile de gérer des conflits dès que c'est éclaté. Le plus important, ça, c'est de
tout
faire...
Tout est dans la prévention.
Prévention, c'est le plus important. Mais pour pouvoir agir rapidement, il faut des moyens. Or, l'ONU n'a pas une armée. C'est qu'on
les casques bleus.
C'est ça, les casques bleus, mais les casques bleus ne sont pas des troupes onusiennes. Nous sommes obligés de demander aux États membres de nous donner des troupes. Donc, normalement, pour monter une opération de maintien de la paix, il faut 3-4 mois pour avoir des troupes.
Une éternité, lorsque l'on sait le nombre de victimes que l'on peut faire en quelques heures seulement. Cette frustration, il l'a connue tout au long de sa carrière consacrée à la diplomatie, à la gestion des crises des conflits à travers la planète. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Kofi Atta Annan, qui en cette année 1993 a gravi les échelons de la Maison de Verre de New York au point d'occuper l'une des fonctions les plus délicates. Il est le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix. De par sa fonction, il est présent sur la plupart des terrains de conflit. Du moins, il coordonne les troupes, les officiers sur le terrain. Avril 1994. Le président Juvénal Habyarimana du Rwanda, après avoir pris son petit déjeuner et fait la promesse à son épouse, qu'il avait émis le vœu d'effectuer le voyage avec lui, de revenir le soir même, monte à bord de l'avion présidentiel où est déjà installé son homologue burundais Cyprien Tariamira. Le voyage se déroule sans incident. La réunion organisée par le président tanzanien Ali Hassan Mwinyi avec les chefs d'État de la sous-région va durer plus longtemps que prévu. Lorsqu'elle se termine, la nuit est tombée. C'est quasiment au pied de l'avion que les deux dirigeants vont signer le communiqué rédigé à la hâte. L'avion décolle donc de Dar es Salaam, direction Kigali. Vers 20h15, le Falcon 50 est en approche de l'aéroport de Kigali. La famille Habyarimana, dont le domicile est tout proche, entend le bruit du moteur de l'aéronef auquel les enfants sont un peu habitués. Agathe Habyarimana, l'épouse du chef de l'État.
Ah, j'étais à la maison avec mes enfants. Il y avait ma fille Jeanne avec ses deux petites filles. Et il y avait Jean-Luc, il y avait Marie-Merci et certains de leurs cousines. Ils étaient même à la piscine et ils étaient en train de nager, vous voyez.
Jean-Luc Habyarimana, l'un des enfants du président.
Quand ça s'est passé, je me trouvais en vacances de Pâques avec... parce que ma sœur et moi, l'année précédente, on avait été envoyés en Égypte pour étudier en Égypte. On était les derniers de la famille. Et le fait justement de nous envoyer en Égypte, c'était par rapport aux informations que mon père avait eues, que le FPR, qui avait attaqué depuis 90, cherchait par tous les moyens à nous kidnapper pour faire pression sur lui. Et donc rien que par cet aspect, je me suis rendu compte que c'était vraiment une situation assez tendue.
20h27. L'avion présidentiel a amorcé son atterrissage. La signalisation de la piste est bien allumée. Puis on entend une forte détonation, un tir de missile, puis un second. Agathe Habyarimana, l'épouse du chef de l'État.
Pour commencer, nous avons entendu des bruits des missiles, justement, mais je ne pouvais pas savoir que c'était son avion. Je me disais, c'est pas son avion, mais les enfants qui étaient dehors à la piscine, ils ont dit « papa arrive », mais moi j'étais à l'intérieur de la maison, je ne pouvais m'imaginer que ce soit son avion, et nous avons entendu ces bruits, et puis quand Jean-Luc est venu me dire « maman, nous croyons que c'est l'avion de notre papa », moi je lui ai dit « peut-être que c'est pas son avion, parce que nous entendions un autre avion à eau, on croyait que le président Mobutu était parti, lui aussi à Dar es Salaam ». Et puis, on a entendu que cet avion n'atterrissait pas, que l'autre, donc, qui était tombé dans notre jardin, je ne suis pas sorti, moi, je suis resté à l'intérieur. Et je me disais peut-être que le président n'était pas là-dedans, qu'il va peut-être rentrer avec le président Mobutu. Et c'est par après, quand ils ont commencé à ramasser les corps, qui sont venus me dire et le président était dedans.
Jean-Luc Habyarimana, le fils du chef de l'État.
Moi, personnellement, j'avais la certitude qu'il était à l'intérieur parce que, vous savez, on était dans une période assez tendue, je dirais. Et durant cette période, il n'y avait aucun avion commercial qui atterrissait la nuit. Et le seul avion qui était attendu, justement, était l'avion de mon père. Et c'était le seul jet, c'était le seul petit jet que le pays avait. Et donc, on le reconnaissait facilement par le bruit et j'étais persuadé que c'était son avion.
Bonjour à tous, les présidents du Rwanda et du Burundi tués hier soir dans un accident d'avion à Kigali au Rwanda. Ils revenaient d'un sommet consacré à la situation dans la région, sommet qui s'était tenu à Dar es Salaam en Tanzanie. Il semble que l'avion ait été atteint par une roquette ou par un missile. La thèse de l'attentat semble en tout cas la plus vraisemblable pour le moment. Les communications téléphoniques avec les deux pays sont assez perturbées depuis ce matin. Apparemment, la situation est plutôt calme à Bujumbura. À Kigali, en revanche, une tension extrême ce matin est des combats dans la ville.
L'avion du président Juvénal Habyarimana a donc été abattu. Avec lui dans cet aéronef, un autre chef d'État est mort, le président Cyprien Tariamira. Avec cet attentat, c'est le grand désordre. L'administration du pays est décapitée ce soir du 6 avril 1994. Le Rwanda se retrouve sans chef d'État et sans chef d'État-major, puisque le général Déogratias Habyarimana a lui aussi péri dans l'attentat. Le ministre de la Défense, Augustin Bizimana, et ses deux adjoints sont à ce moment-là en mission à l'étranger. Le ministre de l'Intérieur, Faustin Muniazeya, aussi. Colonel Luc Marshall, le commandant du secteur Kigali de la MINUAR, la mission d'assistance des Nations Unies pour le Rwanda.
Nous sommes à ce moment-là dans un scénario tout à fait différent. On cherche, nous, MINUAR, à savoir dans quelle perspective on se place. Est-ce que nous avons toujours un rôle à jouer ? Bon, l'attentat, forcément, c'est un coup d'État. Nous nous retrouvons à l'état-major des forces armées rwandaises, où une réunion de crise a été convoquée par les autorités militaires, parce que le pays se trouve devant un problème constitutionnel, doublé d'un autre problème, puisque le Rwanda était à cheval sur la constitution de 91, et sur les accords de paix d'Arusha.
Ce soir du 6 avril 1994, toute la machine militaire, tant nationale que des forces de la MINUAR, la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, semble totalement perturbée et personne ne sait trop comment agir devant cette violence qui s'exprime partout dans le pays. On tue sans discernement et ces violences vont aller en s'amplifiant. Un médecin français évoque l'horreur.
Il y a eu des combats très très violents qui ont duré plus de 24 heures. La situation est catastrophique, quoi, puisque ben, ça, ce sont les infirmières qui me l'ont dit. Bon, ben les cadavres affluent. Vous savez, ici, quand on massacre, il y a en général très peu de rescapés, quoi. La méthode rwandaise est des plus efficaces, quoi. Ce qui est sûr, c'est que depuis donc mercredi soir, c'est l'enfer ici parce qu'on n'arrête pas d'avoir un peu de coups de fil venant des quartiers de toutes filles qu'on connaît ou de gens qu'on connaît qui disent voilà, bon, ben, encore un de moins, encore un de moins, encore un de moins de gens qu'on connaît.
Cet attentat a manifestement désorienté la chaîne de commandement. Il a déclenché également la violence qui se manifestait de façon moins ordonnée et moins systématique jusque-là. Même à la MINUAR, la mission d'assistance des Nations Unies pour le Rwanda, c'est le désordre. Colonel Luc Marshall, commandant du secteur Kigali à la MINUAR.
Mais ce qui se passe, c'est que dans pareille situation où la situation s'oriente petit à petit vers le chaos, mais nous faisons ce qu'on appelle en termes militaires la conduite de la bataille. C'est-à-dire que l'on doit parer au plus pressé. Bon, je vous signale qu'au moment où la première ministre, d'ailleurs, on ne savait, enfin moi je n'étais pas au courant qu'elle était assassinée, je l'ai appris beaucoup plus tard, mais au même moment, nous avons 15 casques bleus qui sont pris en tenaille à la résidence, qui doivent déposer les armes et qui sont emmenés par un officier des forces armées rwandaises, qui s'était engagé à la déposer à un cantonnement de l'ONU pour autant qu'il dépose les armes. Et puis, on n'a plus de nouvelles de ces 15 castes bleus. On ne sait pas où ils se trouvent.
Les massacres des opposants Hutus dans les premières heures, puis de milliers de Tutsis commencent aussitôt et simultanément dans une grande partie du Rwanda, à l'exception notoire de la région de Butare, dans le sud. Le 7 avril 1994, plusieurs dirigeants de partis d'opposition et plusieurs responsables gouvernementaux, dont la première ministre Agathe Houlingui-Imana, sont assassinés par la garde présidentielle. 10 paracommandos belges vont également être abattus. colonel Luc Marshall, commandant du secteur Kigali de la MINUAR, la mission d'assistance des Nations Unies pour le Rwanda.
Le major Ntuyaga, bon, ben, c'est celui qui a proposé d'aller les conduire à un cantonnement de la MINUAR, en contrepartie de déposer leurs armes. Et donc ils ont, bon, ça s'est fait comme cela, ils ont déposé leurs armes et il les a chargés dans son pick-up VW et il les a amenés au camp Kigali. Personnellement, je crois qu'il a cru bien faire parce que je vous parlais de l'observateur de l'ONU qui se trouvait en permanence au camp Kigali. Mais c'était la première personne qu'il rencontrait quand il rentrait dans le camp, puisque son bureau était à l'entrée à droite. Ça me semble logique que dans son idée, il allait remettre les 15 casques bleus au capitaine Apedo, c'était le nom de l'observateur.
C'est à ce moment-là que les paracommandos belges vont être exécutés.
Un sous-officier des forces armées rwandaises qui a crié, au moment où il débarquait du minibus, voilà ceux qui sont responsables de la mort du président. Et c'est ça qui a déclenché la folie des militaires qui se trouvaient rassemblés. Ils se sont précipités sur les 15 casques bleus et ils ont commencé à les lyncher. Et là, on n'a plus eu aucune information, malgré les témoignages des 5 Ghanéens qui, eux, en étaient ressortis. Et dont deux étaient blessés également, hein, à cause de suite au début du lynchage.
10 parabelges du 2e bataillon commando intégré dans les casques bleus de la force d'interposition de l'ONU sont donc assassinés. Tout se passe comme si vous aviez perdu le contrôle, mon colonel.
Là, il y a un problème, c'est la circulation de l'information. Je précise que le général Dallaire est passé vers 11h du matin devant le camp Kigali où se trouvaient les 10 casques bleus belges. Il a témoigné qu'il a vu 2-3 corps qui étaient au sol, qui ne bougeaient plus. Il passe devant le camp Kigali pour aller à une réunion à l'école supérieure militaire. Mais il fait que passer, mais il dit « je l'ai vu, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème ». Puis un peu plus loin, il rencontre l'observateur de l'ONU qui travaillait au camp Kigali, qui était présent, puisqu'il y avait une présence 24 heures sur 24 dans les camps militaires. Il tombe sur cet observateur de l'ONU, et les 5 casques bleus ghanéens qui leur racontent leur aventure. Ils racontent qu'ils ont été lynchés, que les casques bleus se sont réfugiés dans le local de l'officier de l'observateur de la MINUAR. Donc il a tous les éléments en main, et il ne m'a pas prévenu, il n'a prévenu personne.
Alors comment vous l'expliquez? Parce que vous comprendrez que c'est l'une des parties les plus étonnantes depuis la soirée jusqu'à 2 jours après. Qu'est-ce qui fait que cette chaîne de commandement soit comme emballée? Ça vient de quoi? Est-ce qu'il y a une stratégie de dire on laisse faire? Est-ce que ça veut dire que la MINUAR n'était pas équipée du tout? Que c'était le grand désordre?
Non, ça c'est la réalité de ce qui s'est passé.
Quelqu'un qui passe devant un camp, qui voit deux corps couchés par terre,
vous savez,
et qui est juste en train de passer, et qui continue son chemin, alors que c'est un camp militaire, et qu'il est là pour, quelque part, pour, on va dire, assister.
Non, moi, je vous dirais, c'est une des questions à laquelle j'ai toujours pas de réponse 20 ans après. Je me pose toujours la question, mais pour quelle raison est-ce que lui, qui savait exactement ce qui se passait, ne m'a pas transmis l'information? Parce que, bon, je veux dire, si moi je ne suis pas au courant, je ne sais pas non plus réagir.
Nous avons sollicité le témoignage du général Dallaire, qui n'a pas souhaité participer à cette émission pour nous apporter son éclairage. Quoi qu'il en soit, cet assassinat des casques bleus entraîne la décision du gouvernement belge de retirer sa participation à l'opération. Décision entérinée par l'ONU. Dès le 8 avril 1994, la France, par l'opération Amaryllis, puis la Belgique, par l'opération Silverback, et l'Italie évacue leurs ressortissants et ceux d'autres pays occidentaux. Un convoi de ressortissants américains part dans les heures qui suivent l'attentat vers le Burundi, où les attendent des forces américaines en stationnement. Colonel Luc Marshall, commandant du secteur Kigali de la MINUAR.
Et maintenant, la question que je me pose, mais est-ce que finalement tout ça n'était pas voulu de maintenir la MINUAR dans cet état de pauvreté pour qu'on ne réussisse pas cette mission de paix, vu les enjeux stratégiques qui existaient dans la région et le rôle que les États-Unis ont joué dans les bouleversements qui sont intervenus dans la région des Grands Lacs. Bon, ça c'est évidemment a posteriori qu'on l'a appris, quoique je me suis déjà rendu compte le 8 et le 9 que les États-Unis jouaient un rôle particulier.
C'est-à-dire ?
Puisque j'ai été en contact avec l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur Rawson, dont la résidence était à 50 mètres de mon quartier général. Et le 8 au matin, il est venu me trouver pour dire qu'ils allaient évacuer et me demander si je pouvais fournir des escortes pour les accompagner. Et puis, bon, moi, j'ai été quand même interpellé que les États-Unis avaient déjà décidé, le 8 avril, d'évacuer ses ressortissants. Je dis, mais il n'y a vraiment pas de raison d'évacuer. Je ne connais aucun pays qui a pris la décision d'évacuer. La situation actuelle ne l'exige pas. En plus de ça, je dis, si les États-Unis évacuent, mais ça, c'est un signal vraiment négatif, non seulement pour l'ensemble des expatriés, mais pour les Rwandais, c'est on abandonne le navire en perdition. Puis il a rassemblé ses expatriés, et le lendemain, à la même heure, donc nous sommes le 9, il me demande les escortes, puisqu'ils sont prêts à partir. Et alors je lui dis, mais où allez-vous? J'imaginais qu'il allait à l'aérodrome, ça me semblait tout à fait logique. Ah, nous allons à Bujumbura. Je lui dis, vous allez à Bujumbura par la route?
Oui, oui, oui. La capitale du Burundi.
Du Burundi.
Voisin.
Et je lui dis, mais vous n'arriverez jamais vivant. Et alors il m'a dit, ne vous en faites pas. Au moins d'incidents, à Bujumbura, il y a 250 Rangers, c'est des hélicoptères d'attaque. Je n'ai qu'à faire un signe et ils sont là en 10 minutes. Alors je me suis dit, s'il y a 250 Rangers, des hélicoptères qui sont en mesure d'intervenir le 8, parce que déjà le 8, c'est qu'ils étaient là avant le 6. Et donc, je me suis demandé, mais c'est pas l'effet du hasard s'ils étaient là. C'est qu'ils savaient que quelque chose était en préparation. Et donc, ça a été la source de mon questionnement pendant 20 ans sur le rôle des États-Unis. Et puis bon, pendant cette période, on a découvert petit à petit toute l'importance de ce que ce rôle a été dans les bouleversements qui sont intervenus, puisqu'il existe de très nombreux témoignages sur le rôle direct des Américains.
Que de questions sans réponse, que d'interrogations sur le rôle des uns et des autres dans ce génocide rwandais, que d'énigmes sur l'attitude des forces des Nations Unies qui étaient pourtant là pour le maintien de la paix. Une tâche dévolue au secrétaire général adjoint pour le maintien de la paix, le Ghanéen Kofi Annan, qui n'est pas parvenu à éviter cette tragédie. Les forces des Nations Unies qui vont s'abstenir d'intervenir pendant les massacres. Pourquoi? Comment cela s'explique? Quelle est la part de responsabilité du secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix? On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Kofi Annan. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également réagir sur notre page Facebook, la première sur notre antenne, avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Kofi Annan. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.